Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi.
Je vais aller en France, en Suisse et après je vais revenir voir un peu ce qui se passe ici.
Au Mali ?
Mais oui.
Les premiers mots de Sophie Pétronin, l'ex-otage qui doit atterrir en France d'une minute à l'autre. Le prix Nobel de la paix décerné au Programme Alimentaire Mondial, organisation des Nations Unies qui nourrit des millions de personnes à travers le monde. Le Covid en France frappe d'abord les plus pauvres et les plus fragiles. Une étude dirigée par l'INSERM dresse le premier portrait des personnes touchées par le virus. Dernière minute, l'un des suspects de l'attaque contre les policiers à Herblay dans le Val d'Oise s'est rendu à la police. Deux autres sont toujours activement recherchés. Les combats du Haut-Karabakh mobilisent les Arméniens du monde entier. Hier, une cathédrale arménienne a été bombardée. Une médiation pourrait aboutir à une trêve. Ce soir, les demi-finales à suivre à Roland-Garros avec Nadal et Djokovic pour des retrouvailles en finale ou pas. Invité d'Europe Midi, Véronique Cabu, la veuve du dessinateur de presse qui nous présente Le Rire de Cabu. L'exposition ouvre aujourd'hui à l'Hôtel de Ville de Paris et montre toute l'étendue du génie de cet homme qui a tout croqué pour nous faire rire.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Qui sont en France les malades du Covid ? C'est une étude passionnante, elle a été coordonnée par l'INSERM. Premier portrait détaillé de l'impact de l'épidémie, âge, profession, origine sociale ou ethnique. Victor Dolande, le Covid est une maladie inégalitaire.
Oui, les facteurs sociologiques ont une importance capitale dans la contamination. Les personnes qui vivent dans une grande ville ont plus de risques d'être touchées par le SARS-CoV-2 et encore plus si vous vivez dans des logements surpeuplés. On l'a vu lors de la première vague, les habitants de Seine-Saint-Denis, département qui concentre ces critères, ont été particulièrement touchés. Une maladie inégalitaire également du point de vue migratoire, comme l'explique Nathalie Bageuse, directrice de recherche à l'INSERM. C'est elle qui a coordonné cette vaste enquête auprès de 130 000 personnes.
Il y a un autre facteur qui est très intéressant et qui illustre les statistiques qui ont déjà été publiées sur la mortalité liée au Covid, c'est l'origine migratoire. Et l'enquête EPICOF confirme que les personnes immigrées sont plus contaminées que les personnes non immigrées, et en particulier les personnes qui sont issues de l'immigration non européenne.
Des immigrés non européens qui cumulent justement plusieurs facteurs sociologiques. Ils ont continué à travailler pendant le confinement. Ils vivent le plus souvent dans des grandes villes et dans des logements surpeuplés. Pauvres, urbains, mal logés, immigrés, voici le portrait robot du malade type du coronavirus. Et plus vous cumulez ces inégalités sociales, et plus vous aurez de risques d'être infectés.
Victor Dolande, le passage en alerte maximale de quatre nouvelles villes, Lille, Grenoble, Lyon et Saint-Étienne, sera effectif demain matin. Bar fermé et restaurants soumis à un strict protocole sanitaire. En Ile-de-France, la situation est préoccupante dans les hôpitaux de l'AP-HP, disait ce matin sur Europe 1 son directeur Martin Hirsch. Et après le déclenchement du plan blanc renforcé, certaines activités ont commencé à être déprogrammées. Je vous le disais en titre, l'un des suspects de l'attaque d'Herblay dans le Val d'Oise qui avait blessé grièvement deux policiers, l'un de ces suspects vient de se rendre. Vos informations, Guillaume Bier.
Oui, c'est un jeune homme de 28 ans, bien connu des services de police, notamment pour trafic de drogue. Il s'est présenté spontanément il y a deux heures à la direction régionale de la PJ de Versailles, où il a immédiatement été placé en garde à vue. Ce suspect savait qu'il était recherché. Les enquêteurs l'avaient très rapidement identifié, car c'est lui qui aurait passé un appel quelques minutes seulement après l'agression. Il aurait appelé la police pour signaler une rixe. Les enquêteurs veulent savoir s'il a simplement été témoin des faits ou s'il y a participé, et savoir s'il connaît les autres protagonistes qui, eux, ont pris part à cette tentative de meurtre sur deux policiers mercredi soir.
Merci à vous, Guillaume Bier. Un cri déchirant dans la nuit sur l'aéroport de Bamako. Maman, c'est le fils de Sophie Pétronin qui tombe bouleversé dans les bras de sa mère à la descente de l'avion. Sophie Pétronin est attendue en France d'une minute à l'autre après 4 ans de détention au Mali. Elle était la dernière otage française dans le monde. Cette femme de 75 ans qui vivait à Gao, au nord du pays, où elle dirigeait depuis des années une organisation d'aide à l'enfance, a dit d'emblée qu'elle était prête à y retourner.
Je vais aller en France, en Suisse, et après je vais revenir voir un peu ce qui se passe ici.
Au Mali ?
Mais oui.
C'est incroyable.
Non. Moi, j'ai pris l'engagement pour les enfants. Ça fait presque 4 ans que je n'ai pas vu comment se déroulent les programmes. Or, les financements continuent. Il a pris ma place. Donc, on me rassure, et c'est mon fils, donc j'y crois, que tout va bien. Mais il faut quand même que j'aille jeter un œil juste et les saluer, parce que j'ai pris cet engagement. Si ça... vous prenez un engagement, allez au bout de votre engagement. Sinon, vous aurez perdu votre raison d'être sur cette terre.
Sophie Pétronin, propos recueillis par France 24. L'ex-otage, je vous le disais, est attendu d'une minute à l'autre à Villacoublay, près de Paris, où le président Macron s'apprête à l'accueillir.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Le prix Nobel de la paix va cette année à une organisation qui nourrit chaque jour des millions de bouches. Le Programme alimentaire mondial, qui dépend des Nations Unies, s'est occupé de 97 millions de personnes l'an dernier dans 88 pays. C'est colossal, mais ça ne répond qu'à une partie des besoins. Près de 700 millions de personnes, une sur 11, souffrent de sous-alimentation chronique, d'après le PAM, le Programme alimentaire mondial. Nouveau prix Nobel de la paix. La paix, on n'y est pas dans le Haut-Karabakh, cette enclave en majorité arménienne, mais rattachée depuis Staline à l'Azerbaïdjan. Une médiation est en cours sous l'égide de Moscou, qui pourrait déboucher sur une trêve dans les prochaines heures. Mais hier, symbole d'un conflit qui a aussi une dimension religieuse, une cathédrale arménienne a été bombardée à deux reprises. Rémi Bossaron.
Oui, certains dignitaires religieux comparent cette attaque aux méthodes de l'État islamique. C'est une volonté, selon eux, d'atteindre les valeurs spirituelles arméniennes. Mais surtout pour les Arméniens, c'est un symbole de leur capacité à renaître après un drame qui a été de nouveau frappé, car cette cathédrale avait déjà été bombardée lors du premier conflit entre l'Arménie chrétienne et l'Azerbaïdjan musulman. C'était il y a 30 ans, conflit remporté par l'Arménie, qui avait donc à l'époque reconstruit l'édifice religieux au cœur de cette terre majoritairement peuplée d'Arméniens, mais attribuée à l'Azerbaïdjan par l'URSS. Vous l'avez dit, c'était il y a un siècle, quelques années après le génocide arménien, une tragédie dont les fantômes rôdent également dans le conflit actuel, puisque la Turquie, responsable du génocide, soutient ouvertement l'Azerbaïdjan. Tout ce passé, cette mémoire meurtrie, peut expliquer pourquoi le Premier ministre arménien estime aujourd'hui que l'Arménie vit le moment le plus décisif de son histoire.
Merci beaucoup Rémi Bossaron. En France, de la cocaïne dans une maternelle. Deux enfants ont été brièvement hospitalisés après avoir manipulé une petite poche de poudre blanche qu'ils avaient trouvée dans la cour de récréation de leur école de Gagny, en Seine-Saint-Denis, Justin Morin.
Oui, au départ, six enfants âgés entre 3 et 5 ans découvrent par terre un mystérieux petit sachet en plastique. À l'intérieur de la cocaïne qu'ils touchent avec les doigts, certains la mettent à la bouche. Ils l'ont ensuite ramené dans une salle de l'école. C'est là qu'un membre du personnel de l'établissement l'a récupéré et l'a immédiatement jeté à la poubelle. Sauf que, peu de temps après, deux de ces six enfants ont commencé à avoir des effets. Ils ont été hospitalisés avec les pupilles dilatées. Heureusement, les symptômes de consommation sont rapidement retombés. Ils sont rentrés chez eux hier soir. Le maire d'hiver droite de Gagny, Roland Cranoli, se dit scandalisé. Il réclame plus de moyens pour lutter contre le trafic de drogue.
Là, pour moi, il y a une limite qui a été franchie, c'est inadmissible. Peu importe l'origine de cette substance, qu'elle vienne de l'extérieur ou de l'intérieur de l'établissement, c'est le cœur d'une institution qui a été touchée. Hier, nous avons frôlé le drame, mais cela doit faire réagir tout le monde.
La question, c'est comment un pochon d'un gramme maximum, selon une source policière, a pu pénétrer dans l'enceinte d'une maternelle? Est-ce qu'il a été envoyé de l'extérieur ou est-ce qu'un membre du personnel de l'école l'a apporté? L'enquête a été confiée à la Sûreté territoriale.
Merci à vous, Justin Morin. Les sports avec d'abord le cyclisme et Paris-Roubaix à son tour victime du Covid. La course qui devait avoir lieu le 25 octobre prochain est annulée. Roland-Garros, le tennis avec les deux demi-finales hommes cet après-midi. Simon Rubin, dites-nous quelles sont les chances d'échapper à une nouvelle finale Nadal-Djokovic.
Alors c'est vrai que quand on voit Nadal et Djokovic chacun dans une demi-finale, en général on a tendance à les retrouver en finale l'un contre l'autre. Il faut bien le dire, depuis le début du tournoi, ils sont beaucoup plus forts que les autres, mais gardons quand même espoir, hein. Peut-être va-t-on vibrer un peu, peut-être allons-nous assister à des rencontres à suspense. Djokovic, qui affronte le grec Tsitsipas, était blessé au dos avant-hier. Sera-t-il complètement rétabli, hein? Ça va être la clé du match, en sachant tout de même que le Serbe, même blessé, est capable de gagner, hein. Il l'a montré au tour précédent, dos bloqué, bras engourdis, visage livide, il avait quand même réussi à gagner. Pour ses adversaires, c'est presque démotivant. Quant à Nadal, il affronte l'Argentin Schwartzmann. Les deux hommes se sont affrontés fin septembre à Rome et l'Espagnol avait perdu. Schwartzmann apportant ainsi la preuve que Rafael Nadal n'est pas invincible sur terre battue. Voilà pourquoi on peut raisonnablement s'attendre à des matchs plus serrés que ceux à quoi on a été habitué jusqu'à présent.
Simon Rubin à Roland-Garros pour Europe 1. Avant le coup d'œil sur la météo, je vous rappelle l'information qui nous est parvenue juste avant le début de ce journal et que développait Guillaume Biet du service police-justice d'Europe 1 pour les policiers attaqués à Herblay dans le Val-d'Oise. Un suspect s'est livré à la police. Il s'est rendu au service de police à Versailles. Deux autres de ses présumés complices sont toujours activement recherchés. Le temps, Anissa Haddadi, encore très contrasté dans le nord et le sud.
Oui, effectivement, c'est pas du tout le même temps. Si vous nous écoutez au sud de la Loire ou au nord de la Loire, alors nous avons une perturbation qui touche la moitié nord du pays. Cet après-midi, de la Gironde au territoire de Belfort, eh bien le ciel est couvert avec encore des averses cet après-midi. Dans le sud-ouest, ça y est, les brouillards de ce matin se sont dissipés. Mais attention, le ciel reste encore un petit peu gris, mais vous aurez la chance de voir le soleil grâce à des éclaircies. C'est sur la vallée du Rhône, sur le bassin méditerranéen et la Corse qu'il fera le plus beau aujourd'hui, avec un soleil qui brille généreusement. Les températures, elles sont encore douces. Profitez-en. Ça va baisser dès demain, avec 15 à 20 degrés sur la moitié nord, 15 à Brest, 17 à Rennes, Lorient et Paris, 18 à Belfort, 19 à Poitiers. Et c'est plus doux sur la moitié sud, plus de 20 degrés, hein, 21 à Mende et Chambéry, 22 à Marseille, 23 à Carcassonne et Bastia et 24 à Nîmes pour la maximale.
Merci Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant, Cabu qui continue de nous faire rire avec une formidable expo qui ouvre aujourd'hui à la mairie de Paris. Plus de 300 dessins qui vont surprendre même ceux qui connaissent bien et qui appréciaient Cabu. Véronique Cabu, l'épouse du dessinateur, sera avec nous dans un instant.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Véronique Cabu.
Bonjour Patrick Cohen.
C'est la première fois que vous prenez la parole depuis le massacre de Charlie il y a 5 ans et la mort de Jean Cabu. Et vous le faites pour un rire. Le rire de Cabu, formidable exposition qui ouvre aujourd'hui à la mairie de Paris. 350 dessins de toutes les époques et presque autant d'éclats de rire. C'est tout le contraire d'un hommage funèbre. Cette expo, vous l'avez rêvée la plus joyeuse possible?
Oui, tout à fait. Parce que le rire, c'est ce qui soulage. C'est le rire, c'est un remède contre la barbarie. Le rire, c'est Cabu. Cabu aimait tellement rire. Son rire était spectaculaire. Tout le monde l'a dans la tête, enfin ceux qui le connaissaient. Et puis
et on l'entend dans l'expo.
Voilà, on l'entend dans l'expo. Et surtout, ce qui est important, c'est de voir à quel point c'était un dessinateur tout terrain. Et le tout terrain, c'est faire rire, c'est trouver le moyen de faire rire, faire réfléchir aussi,
oui.
Et puis être dans l'air du temps.
Faire réfléchir. Cabu avait le rire facile, a dit Rhys, le directeur de Charlie, dans une phrase qui est reproduite au début du catalogue de l'exposition. Le rire facile, mais à une condition, le rire devait être inventif. Dire une bêtise ne suffisait pas, il fallait la construire autour d'une trouvaille. C'est la créativité, c'est l'invention qui frappe en parcourant cette expo, Véronique Cabu.
Oui, écoutez, moi je ne suis pas objective, mais je dirais que le génie de Cabu, c'est le jaillissement, le dessin qui jaillit, un trait qui éclate, qui veut dire aussi quelque chose. Et que ça soit dans des petits, des grands formats, il est vraiment, quand je dis c'est un dessinateur tout terrain, c'est un dessinateur tout terrain.
Oui.
Et puis le dessin, c'était sa vie, donc voilà.
Et la vie qui jaillit sous son crayon. Vous avez raison, il y a des miniatures et des grandes fresques. Tout le monde connaît le dessinateur de presse, mais beaucoup, en visitant cette exposition, vont découvrir l'artiste, le surdoué du dessin, de l'encre de Chine et de la couleur. Vous avez déniché avec le commissaire de l'exposition, Jean-François Pittet, Véronique Cabu, dans le fatras de ses archives de véritables œuvres d'art.
Oui, tout à fait. Et notamment quand vous voyez les pastiches qu'il fait.
Ah oui, les pastiches.
Rembrandt,
Sarkozy, Velasquez, Daumier.
Oui. Sarkozy par Picasso, par Sarkozy, enfin, dessinant Picasso,
à la manière de Picasso, par exemple.
C'était aussi un grand dessinateur, mais il était visionnaire. Par exemple, il n'aimait pas les voitures, sauf sa vieille voiture que j'ai souhaité qu'elle soit dans l'expo. Une trèfle de...
C'est quoi, de 1925
1924 dans l'expo, oui, tout à fait.
Je m'arrête sur cette voiture qu'on voit juste en arrivant. Vous avez fait beaucoup de kilomètres là-dedans, Véronique Cabu?
Oui, on a fait des kilomètres et on est descendu dans des lieux de vacances, étape par étape, parce que c'est 40 kilomètres à l'heure. Et ce qui était rigolo dans cette affaire-là, c'était que quand on s'arrêtait, il y avait des vieilles personnes qui arrivaient. « Ah, mais c'est là-dessus que j'ai appris à conduire !» Mais ça le rendait heureux. Il était très heureux au volant de cette voiture.
Voilà.
Il ne conduisait pas les autres voitures.
Non. Et il les croquait, il se moquait des autres fous de bagnole. Donc
bien
voilà,
sûr,
ça fait partie de ses contradictions aussi.
Oui. Bah, en 69, dans Pilote, il fait un dessin « Faut-il interdire les voitures dans les villes ?»
Ouais.
Et ça, ça a beaucoup amusé Anne Hidalgo hier à l'exposition.
Au vernissage. Parce que,
au vernissage. Et elle a dit « Mais il faudra en faire des cartes postales.
» Cabu était capable de tout croquer, aussi bien les jolies filles, et elles sont très jolies les filles de Cabu sous son crayon, que les monstres, les personnages antipathiques, le beauf, l'adjudant Cronenbourg, les salles d'audience, les grands procès. Il y a un croquis d'audience du procès Ben Barka en 66 qu'il a fait pour le Figaro, comme les musiciens des concerts de jazz, les villes et les campagnes, les personnages politiques comme les vedettes de la chanson et du cinéma. C'est cette diversité-là qui fascine. Rien ne résistait à son coup de crayon,
Véronique. Non, parce que c'était sa vie. Je répète, sa vie, c'était le dessin. Donc que ça soit un salle de spectacle, que ça soit au marché, que ça soit dans la rue, tout était matière à dessiner.
Un dessin qui vous fait rire à chaque vision, à chaque
passage. Oui, à chaque vision, je sais pas, il y en a toujours. Il y en a un, par exemple, qui est absolument qui va de soi. C'est une dame qui ressemble plutôt, en fait, c'est une prostituée et elle a.
Alors, on va dire que c'est une vieille prostituée.
Une
vieille prostituée qui lève légèrement son jupon.
Oui. Et il y a écrit cru 1910.
Il y a la marque, comme il y a sur les bords de Seine. Oui, effectivement, elle lève son jupon et en haut de sa cuisse, il y a la marque cru 1910. Voilà, par exemple. Et puis autour de ces dessins, l'univers de Cabu qui nous accueille à l'entrée de l'exposition, derrière son bureau, reconstitué avec son incroyable désordre.
Oui.
Des piles de journaux, de feuilles d'encre de Chine, de gouache et de colle. C'était comme ça.
C'était exactement comme ça. Moi, je ne regardais jamais ses dessins avant la publication. Il faut dire que Cabu, il vivait avec deux piliers, Charlie Hebdo et Le Canard Enchaîné, et il avait toujours un dessin à faire. Donc, mais je regardais la publication des dessins parus, mais jamais, je regardais jamais sur sa table quel dessin il faisait.
Donc, vous avez découvert beaucoup de choses.
Bien sûr, j'ai découvert beaucoup de choses.
Et puis, il y a sa carte de presse affichée, c'est important.
Ah, ça, très important. 21 991. Ça, je suis très fière. Et il se voyait comme un journaliste.
Il était un formidable journaliste parce qu'il croquait les personnages et les situations, qu'il a fabriqué un nombre incroyable de reportages. On en voit quelques-uns dans l'exposition.
Oui, alors Dantin, qui est absolument visionnaire, c'est le marché aux bestiaux à Charolles, et c'est sur la maltraitance animale. Et à la fin, ça se termine par « Devenez végétarien ». Et c'est tout à fait... exact, c'est exactement la problématique à l'heure actuelle.
Il y a ces grands combats, l'écologie, vous l'avez cité, le pacifisme, viscéralement pacifiste, marqué au fer rouge par ces années d'Algérie, de guerre d'Algérie, 28 mois, je crois, en Algérie. Ses présidents, les présidents de la République, les années Dorothée, ces grands personnages, Duduche, le beauf. Enfin voilà, il y a 8 grands thèmes d'exposition, c'est d'une diversité formidable. Et puis il y a la musique aussi, évidemment.
Ah, évidemment, la musique. Avec Cap Calo.
Voilà, ça c'est le Jumping Jive de Cap Calloway qui sert de bande-son à un super montage de ces croquis de jazz, Véronique Cabu.
Les dessins, il faut qu'ils swingent, comme le jazz. Donc, il disait toujours sa formule, c'était « il faut que ça swing ». C'était ça.
Voilà. Et ça donne un ensemble de dessins, pas seulement sur le jazz, incroyablement vivant, avec un trait dynamique. Vous avez, Véronique Cabu, témoigné au procès des attentats de janvier 2015. Je sais que vous vous êtes fait violence pour prendre la parole dans cette enceinte devant les accusés. Vous redoutiez cette épreuve. Vous êtes soulagée de l'avoir fait.
Je suis soulagée et c'était indispensable. Indispensable parce qu'on est dans un état de droit. Et je pense que le témoignage des familles est très important pour expliquer la perte de l'homme de sa vie Et la meilleure des réponses, c'est justement cette exposition où je pense que le rire de Cabu, c'est justement un remède. Et ça, aussi, c'est une manière de dire, regardez ce qu'on a perdu, qui on a perdu. C'est, voilà, c'est pour ça le lien. Le lien me semblait important que cette exposition réponde et montre son talent, montre sa personnalité en réponse au procès.
Le rire de Cabu, c'est le rire d'un homme libre qui peut donc continuer de retentir, qui retentit là, en ce moment à la mairie de Paris.
Oui, la meilleure des solutions, c'est effectivement, moi je serais très heureuse d'entendre les visiteurs rire à cette exposition.
Ah mais je suis sûr qu'à un endroit ou un autre,
certainement.
Ils riront et ils seront épatés, mais c'est effectivement une façon de répondre aux assassins, de défendre aussi la liberté d'expression, c'est ça.
C'est exactement ça, mais je voudrais citer la citation de Barack Obama qui a écrit en 16 novembre 2016.
Ah oui, alors la lettre est exposée.
La lettre est exposée, c'est une première. C'est la liberté d'expression n'est pas seulement une valeur américaine ou française, c'est aussi un homme, c'est un droit de l'homme universel qui rend le monde plus fort et qui ne peut être réduit au silence par la violence de quelques personnes.
Voilà, c'est une lettre signée Barack Obama qui est exposée à la mairie de Paris. Que vous avez failli la mettre à la poubelle d'ailleurs.
Oui, quand j'ai reçu cette lettre, c'était dans une enveloppe jaune et j'ai failli la mettre à la poubelle et j'ai ouvert l'enveloppe. Comme on ouvre un prospectus, et quand j'ai vu White House, je me suis dit non, là, c'est sérieux.
Effectivement. Il y a encore des choses à découvrir dans les archives de Cabu.
Bien sûr, il y aura encore plein de choses à découvrir. Il gardait tout, ses brouillons, tous ses dessins. C'est une masse énorme, mais c'est à nous de les faire vivre.
Voilà. À la mairie de Paris, et puis...
catalogue.
Il y a le catalogue, évidemment, oui. Le rire de Cabu chez Michel Lafond, catalogue magnifique de l'expo. Et puis, il faut aller à Châlons-en-Champagne, enfin...
La Dudu-Chautec,
voilà, quand Cabu est né, ça s'appelait Châlons-sur-Marne, maintenant c'est Châlons-en-Champagne, et il y a un lieu qui lui est consacré, et avec des dessins qui sont publiés aussi chez Michel Lafond, Cabu avant Cabu. Ouais. Merci beaucoup Véronique Cabu, le rire de Cabu donc exposé à l'Hôtel de Ville de Paris dès aujourd'hui et jusqu'en décembre. Merci d'être venu
beaucoup, Patrick.
Au micro d'Europe 1.
Europe Midi, Patrick Cohen.